Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que je vais consacrer au romancier Jean Blanza sous le titre « Jean Blanza, le romancier de l'inhabituel et du bouleversant ». Même s'il est né dans la commune de Domps, près des Moutiers, c'est d'ailleurs quasiment l'anniversaire de sa naissance, même s'il est mort à Paris, le nom de Jean Blanza est définitivement attaché à notre région de Bellac, non seulement parce qu'il a écrit le roman « La Gartempe », mais aussi parce qu'il a vécu longtemps à Bellac, rue Pierre Merlin, et que sa tombe est au cimetière de Saint-Bonnet de Bellac. Bien qu'il n'ait écrit que 7 romans, Jean Blanza est indiscutablement un des très grands de la littérature française. Comme d'autres, il est aujourd'hui injustement oublié. Pourtant, ceux qui suivent nos chroniques hebdomadaires des petites et grandes histoires de la basse marche savent que nous ne manquons pas de citer de larges extraits de ses romans, et en particulier de La Gartempe. Pour la chronique d'aujourd'hui, nous avons utilisé des extraits de Enfance, du Faussaire et de l'Iguane. L'ouvrage de Christine Lagarde-Escoffier intitulé Jean Blanza, de l'héritage à l'hérésie, des extraits d'un ouvrage collectif coordonné par Myriam Boucharinck pour saluer Jean Blanza et en particulier des participations de Georges-Emmanuel Clancier, de François Blanza, de Jeanne-Marie Baude et de Pascal Léonard, et un article de Jean Vergniaud dans les cahiers des amis de Robert Margerie.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici un extrait du premier récit de Jean Blanza, Enfance. Grand-mère est malade. Cette phrase paraît par intervalles dans l'esprit de l'enfant et même informulée, elle mêle à ses pensées sa saveur et sa couleur. À table, le vide de la chaise, le silence. Plus fort que les bruits, la tension de l'air qui forme l'absence de l'aïeul change le goût des aliments. Pendant qu'il songe, dans les longues heures éteintes, au lieu de sentir autour de lui l'ordre des pièces vides, au lieu que sa pensée erre librement de l'une à l'autre, son attention le porte tout entier vers cet endroit du plafond qui soutient la chambre de la malade et d'où partent de temps en temps de menus bruits, de chaises dérangées, de pas étouffés, de cuillères tintant dans un verre. Les hommes ne se fâchent plus qu'à voix basse contre leurs bêtes. Il y a toujours une femme près du feu où les tisanes bouent, et le soir, pour monter à l'étage, chacun retire ses sabots. Dès qu'il a su qu'elle était malade, elle s'est éloignée de lui. Elle est devenue une autre. Ce mot de malade l'a altéré si profondément qu'il ne peut reporter le souvenir de sa grand-mère, souriante sous son chapeau de paille noire, à cette personne couchée, autour de qui, à présent, s'ordonne la vie. Un matin, sa mère dit à l'enfant « Ta grand-mère va mieux et te demande. » Plein de répugnance, l'enfant se laisse pousser dans le couloir gris. Devant la porte, son cœur bat. Il ne voudrait pas entrer. Il a peur de l'étrangère qui est derrière. Le voilà dans la chambre où il est venu si souvent, naguère. Une senteur fétide la remplit. Les chaises, la table, les rideaux du lit sont devenus autres. Ils ont trahi le passé. À travers eux, il sent la maladie. Plein de confusion et de larmes, l'enfant marche vers le lit. Deux mains sèches tirent ses poignets froids. Il détourne la tête, une lèvre se pose sur sa joue, il se recule. L'enfant, bouleversé, sait bien que ce qui le voit là, ce front jaune que couvre mal des mèches blanches, ses yeux troubles, ses pommettes rougies, ce n'est pas sa grand-mère, c'est la maladie. L'enfant vient souvent maintenant dans sa chambre. Il s'habitue un peu à la maladie. Il voit comment elle se fait servir, comment elle écarte ce qui est beau et fort, la lumière, les bruits éclatants, comment elle reçoit au fond de l'ombre les aumônes méprisables, des tisanes passées de main à la main, dans des chuchotements, des plaintes. Parfois, la maladie parle toute seule, dans le silence de la chambre, pendant qu'une mouche bruit à la fenêtre. Peu à peu, pourtant, la grand-mère se remet. C'est le milieu de l'après-midi, l'aïeul et l'enfant se promènent dans le verger. Tout est silence, jusqu'aux confins du monde. Le feuillage frémissant s'est arrêté. Tout à l'heure, le chant du coq éclatera. Une voix mâle et le chaos d'une voiture éveilleront le vieux chemin, la brise, le bosquet. Mais ce n'est encore que le moment furtif où le doute étreint les cœurs les plus assurés. L'enfant regarde devant lui la robe noire que la marche balance à coups égaux. Il voit la main crispée sur le bâton poli. Sa grand-mère est là, mais elle revient de loin, d'un pays noir et sans forme, dont elle n'a rien voulu lui dire. Il retient sur ses lèvres cette question accusatrice. « Où étais-tu, grand-mère, quand tu étais malade ?» Mais déjà, le coq se dresse et bat des ailes.
Petite et grande histoire de la basse marche.
Curieux roman, curieux récit que Enfance, dont nous venons de lire un court extrait. Jean Vergniaud nous résume ainsi Enfance. Un très jeune enfant vit, se promène, évolue dans le cadre d'une ferme et des collines, des champs et des bois qui l'entourent. On est, c'est certain, dans la région de Dompse, près des Moutiers, où est né Jean Blanza en janvier 1906. Enfance est le premier roman de Jean Blanza et c'est un curieux roman. Il n'y a pratiquement pas de nom de lieu. Les personnages n'ont pas de nom. Ils sont désignés par leur état, père, mère, la petite fille, ou par leur fonction, la petite servante, le facteur. Ces personnages ne sont jamais décrits. Le personnage principal lui-même n'a pas de nom, c'est l'enfant, ou il. Il n'y a pas de vrai repère de temps, cependant nous pouvons situer l'action vers 1910. Par contre, on trouve une formidable description de la nature limousine, des saisons, parfois des travaux des champs et de la ferme, et un chapitre entier est consacré aux animaux familiers. En fait, ce premier roman, c'est la découverte de la présence des autres, y compris de la petite fille, qui va profondément troubler l'enfant, comme d'ailleurs tout le récit, lui, va profondément troubler le lecteur. Après son séjour à Dompse et à Émoutiers jusqu'en 1917, Jean Blanza arrive à Bellac. Son père, facteur, est nommé à Saint-Bonnet de Bellac. Jean Blanza va fréquenter l'EPS, l'école primaire supérieure, aujourd'hui le lycée Jean Giraudoux, de 1917 à 1922. Ensuite, nous le retrouverons à l'école normale de Versailles, et cela de 1922 à 1926. Lorsque son premier roman « Enfance » paraît, en 1930, il est instituteur en Seine-et-Oise, un métier qu'il exercera jusqu'en 1942.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Dès 1929, Jean Blanza réalise des critiques littéraires pour la revue Europe, que dirige alors Jean Guéhenno, qui deviendra très vite son ami. Après la publication de Enfance en 1930, ce sera la publication de À moi-même ennemi en 1933 et de Septembre en 1936. Au cours de cette année 1936, il effectue des lectures littéraires à Radio Paris. Et c'est alors qu'il rencontre François Mauriac, qui deviendra son complice et son grand ami. D'ailleurs, Mauriac s'inspirera de Jean Blanza pour construire le personnage de l'instituteur socialiste dans son roman Le Sagouin.
Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Comme vient de nous le dire Pierre Dac, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Jean Blanza, tout naturellement, pendant cette période, va devenir résistant. Jean Blanza, nous dit son petit-fils, s'est peu exprimé sur son engagement pendant la guerre. En partie en raison de son caractère porté à la discrétion en ce qui concerne sa vie, en partie en raison de la désillusion et de l'amertume probable quant à ce que devenait le Comité national des écrivains à la Libération. Un temps très court, influencé par la jeune République des Soviets, Jean Blanza militera en 1936 pour le Front populaire et la défense de la cause républicaine espagnole, combat qu'il va mener avec François Mauriac. Avec ses amis Mauriac et Guénot, Jean Blanza rejette le régime de Vichy, mais c'est Jean Paulhan, le directeur de la NRF, qui va lui donner l'occasion d'entrer dans le réseau de résistants dit du Musée de l'Homme. On trouvera dans ce réseau des personnalités comme Geneviève Tillon, Pierre Brossolette ou Jean Cassou. Les missions de ce réseau sont plus dangereuses qu'il n'y paraît, puisqu'en mars 1941, 17 membres de ce réseau sont arrêtés et 10 sont fusillés. Jean Blanza raconte comment, par exemple, ils devront pendant un temps cesser de produire et de distribuer des tracts contre l'occupant et contre Vichy. C'est Blanza qui sera chargé de détruire et de faire disparaître la Ronéo qui se trouvait chez Jean Paulhan, son voisin. Avec Jacques Decour, un professeur d'allemand, militant communiste, Jean Blanza va participer à la création du journal Les Lettres françaises. Avec Jacques Decour, le combat n'est pas seulement politique, il est aussi littéraire. Il s'agit, en s'appuyant, en regroupant les écrivains français, de combattre Vichy, de chasser l'occupant allemand, mais bien plus, de jeter les bases d'une nouvelle organisation de la vie littéraire, intellectuelle, artistique, pour la France libre. Cela conduira à la création clandestine du Comité national des écrivains. On trouve là Jacques Decour, Jean Paulhan, Jacques de Bubridel, Charles Vildrac, Jean Guénot, Jean Blanza. Plus tard viendra François Mauriac. Mais Jacques Decour sera arrêté par les Allemands et fusillé. Et on verra que l'œcuménisme politique de Decour aura fait long feu, en particulier, plus tard, sous l'impulsion d'Aragon. Mauriac sera exclu du Comité national des écrivains en 1948, Paulhan démissionnera en 1952, Blanza l'a quasiment quitté dès 1947, et Guénot, lui, était parti en 1946. On comprend ainsi l'amertume et la désillusion de Jean Blanza dont nous parlait son petit-fils en début de ce chapitre. À noter qu'en 1942, Jean Blanza avait publié « L'orage du matin », c'est un roman à lettres, qui obtint le grand prix de l'Académie française.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
À la Libération, après un bref passage au ministère de l'Éducation nationale avec Jean et Guénot, il devient directeur littéraire aux éditions Bernard Grasset, et cela de 1945 jusqu'en 1953. Il sera également critique littéraire au Figaro littéraire de 1946 jusqu'en 1961. En 1953, il quittera Grasset pour devenir membre du comité de lecture des éditions Gallimard. Il y restera jusqu'en 1977. Pendant toute cette période, il sera un lecteur infatigable et s'intéressera plus aux autres auteurs qu'à ses propres œuvres. Il sera alors un découvreur de talents, pour ne citer que quelques exemples, Boris Vian, en France Steinbeck, Hervé Bazin, Georges-Emmanuel Clancier ou Nathalie Sarraute. Nous avons choisi Vivaldi car c'est Blanza lui-même qui a déclaré La Gartempe, son roman. Pour moi, c'est une musique lente comme celle de Vivaldi. bien qu'il se consacre essentiellement à la lecture, à la critique littéraire et à l'édition, en 1957, il publie pourtant La Gartempe. Pour nos chroniques des petites et grandes histoires de la Basse-Marche, nous avons fait de nombreux emprunts à ce roman, en particulier par la richesse de la description des saisons en Basse-Marche. Voici ce qu'écrit Émile Herriot, un académicien, dans Le Monde du 30 janvier 1955, à propos de ce nouveau roman. Voici, à son tour, avec La Gartempe, le roman de l'inexprimé, où les personnages se taisent et sont montrés, menés, par ce qu'ils ne prononcent pas. Dans les 260 pages de ce livre, j'ai relevé plus de 40 fois les mots « silence » et « silencieux ». La Gartempe est une rivière dans le Limousin où l'Exode a rabattu un couple qui s'aimait autrefois et que la guerre a séparé pour ne plus se retrouver lui-même quand il se reforme. Mathilde et Henri réunis après la défaite. Cette femme et cet homme ne s'aiment plus que physiquement et Mathilde, prête pour l'aventure menée par ses sens, cédera momentanément à un amant de rencontre sans prestige et sans intérêt, beauté ni jeunesse et qui n'a pour lui que de subir violemment l'attrait de cette sensuelle inconnue. Il n'y a pas d'amour entre eux, c'est la nature qui les lie et les accouple, tous deux muets, sans explication, peut-être même sans conscience, dans leur tacite accord charnel. Et nous ne saurons rien de leur pensée et de leur âme s'ils en ont une, dans leur solitude angoissée. Le dessin de M. Jean Blanza n'est pas équivoque. Il n'a pas l'intention de troubler en peignant des bêtes amoureuses. Il montre une panique où elles se rejoignent dans l'horreur inconsciente de leur existence passagère en face de la nature éternelle et indifférente. Les saisons passent, la durée n'est pas faite pour l'homme. Sous les yeux des amants d'un jour, la Gartempe symbolique ne cesse de couler, emportant dans ses flots les reflets du ciel et de la rive. Ai-je tout compris de ce livre plein de silence, de ces êtres sans explication, sans plainte, sans soupir, sans parole? Je ne sais, mais des arbres et des eaux bruissent et le vent court à travers ces pages et de malheureux êtres qui mourront tentent de s'accrocher à quelque chose qui les dépasse en se serrant aux bras l'un de l'autre.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Jean Blanza revient fréquemment à son domicile de Bellac, rue Pierre Merlin, dans la maison qu'il avait rachetée au grand-père de Jean Giraudoux. Il revient à Bellac surtout à partir des années 1960. En 1964, c'est la consécration, il obtient le prix Femina avec son roman Le Faussaire. Un roman, nous dit l'auteur, écrit en un seul jet, en 12 jours, pour consoler les vivants d'avoir à mourir. André Billy, académicien Goncourt, dans Le Figaro du 27 mars 1964, écrit à propos du Faussaire « On passe d'une fantaisie aimable à un fantastique cruel. » Et il ajoute « Jean Blanza, auteur d'un curieux roman, Le Faussaire, qui rompt avec la tradition du roman classique cher jusqu'à présent à l'auteur. Dans un cimetière de campagne en Limousin, le démon a rappelé à la vie 6 êtres humains morts à des périodes différentes. Une petite fille, une jeune femme décédée après 1 an de mariage, un grand paysan, le roux, garçon jadis convaincu de bestialité, un vieux paysan et enfin une vieille paysanne. Tous sont rendus à la vie pour 20 heures. Ils devront revenir au cimetière à minuit, quelque forme qu'ils aient prise. La petite fille reparaît chez elle, et sa mère, qui ne peut y croire, la cache dans le lit. Le père est heureux, mais honteux. Les deux fils ont décidé de ne rien dire à l'école. Au milieu de la nuit, la mère constate que la petite a disparu. La jeune femme a beaucoup attendu de son retour, mais elle est enlaidie et son souffle empeste. Le mari, qui ne comprend pas cette résurrection, en est d'abord heureux, mais la nuit, sa femme reste froide dans ses bras. Il quitte la pièce en la rognant. Le grand paysan contemple ses biens retombés en friche. Il injurie ses enfants, sa bru, le berger. En fait, la ferme n'est plus à lui. Sa veuve l'a vendue. Il s'en va et retourne au rendez-vous du cimetière. Le roux, gars robuste mais primitif et bestial, revient chez lui, où tout lui est hostile, même les bêtes. Des chiens le harcèlent, il en étrangle un, et la fermière tombe inanimée. Traqué par la gendarmerie, il est content de se retrouver au cimetière, car l'enfer, pour lui, c'est de ce côté qu'il abandonne. Le vieux, lui, ne sera reconnu que par son chien. Quant à la vieille, elle a pris le parti de se transformer en châtaigne. Et dans le sac, sur le dessus des autres châtaignes, observe le comportement de sa maisonnée. Mais le délai est passé. La vieille, oubliée par le démon, restera muée en châtaigne durant des années, roulant au gré de la pluie, sortie du sac, piétinée. Cette réapparition de six êtres très dissemblables est évoquée d'un style volontairement glacé et produit une impression triste, étrange, qui confine au malaise et au désespoir. Ce mélange de fantastique et de réalisme ouvre-t-il dans l'art à la fois sobre et raffiné de Blanza une nouvelle veine que les maléfices de la Gartempe faisaient un peu prévoir, il est vrai. J'ajouterai, pour ma part, que Le Faussaire est un très grand roman, mais qu'on ne sort pas totalement indemne de sa lecture. Si Le Faussaire ne laisse pas les lecteurs indifférents, c'est peut-être pire encore avec le dernier roman de Jean Blanza, publié en 1966, L'Iguane.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
C'est un ouvrage composé de 13 récits regroupés en 4 ensembles, sur la justice, sur la peur, sur l'amour, sur la mort. Raymond Queneau, dans la préface de ce roman, écrit « Si les chats lisent ce livre, ils manifesteront tous les signes de l'horripilation, comme lorsqu'ils aperçoivent passer dans l'atmosphère ce que l'homme ne sait pas voir et ce que Blanza nous fait découvrir dans le miroir qu'il nous tend. » Voici un extrait de L'Iguane intitulé « La pêcherie ». Chaque année, vers mars-avril, la chatte maigre de la ferme disparaissait longtemps, s'efflanquait et chapardait plus que d'habitude. « Elle nourrit », disait-on. La nuit, mais bien souvent le jour, à une heure quelconque, la chatte, soudain, confiante, apportait ses enfants à la maison aux soins de ses maîtres. On connaît la scène, la mère s'avance, la tête dressée, elle tient son fils par la peau du cou, le chaton pend, docile, à chaque oscillation. Il a pris l'humble attitude prénatale, la queue ramenée sous le ventre, les pattes un peu relevées. Il semble retomber dans le sommeil et dans l'attente. Spectacle comique et inquiétant. La mère, chaque année, dépose ses chatons dans le même coin, à droite, au pied du perron. Petit tas, soudain bien vivant, grouillant, hérissé de griffes, d'où s'élèvent des miaulements. On ne sait jamais le compte. On distingue le tout blanc, le tout noir, le plus gros, le plus petit. Mais on ne retiendra pas ces différences, mais celui d'une créature collective. Et hop, c'est l'heure de la solution. Comme pour les chiots, il n'y en a qu'une, la noyade. La noyade, c'est l'affaire d'un grand valet, maigre, frêle, mais fort. Au moment de la noyade, le valet va chercher un certain panier, tandis que la chatte miaule enfermée quelque part. L'homme ramasse les chatons, un à un, et les pose avec précaution sur les tresses de ronces. Avertis, les enfants, 6 ou 7, de 13 à 5 ans, sortent des coins où ils jouaient. Les plus petits trépignent. « On va noyer les chats de la chatte !» Garçons et filles, ils sont tous là, curieux, exaltés. L'aîné, une fillette gracieuse, douce avec les bêtes, prend la tête de l'escorte. La pêcherie, près de la ferme, c'est la chose, l'être plutôt, le plus étrange du pays. Il y a 30-40 ans, on y rouissait le chanvre. Elle ne sert plus à rien. Les bêtes n'y boivent pas, les femmes n'y lavent pas. Une source intarissable alimente la pêcherie. Le grand valet pose son panier, il soulève le premier chaton par la peau du cou. Le chaton rassuré cesse de miauler. Il croit peut-être que sa mère le porte et il prend l'humble attitude filiale. Le valet le fait tourner autour de son poing, le balance et le montre sous tous les côtés. Au bout de ce vol court et mou, à 3 ou 4 mètres, une gerbe d'eau jaillit d'un point de l'eau. On ne voit rien pendant que les gouttes retombent, que les orbes s'élargissent. Puis, on aperçoit le chaton. Il surnage un moment dans l'eau très claire et s'agite avec une maladresse frénétique et comique. Peut-être il crie, ou ce sont ses frères. Après 30 ou 40 secondes, il y a entre deux eaux une petite ombre sans épaisseur qui monte, descend, remonte de moins en moins. L'ombre se rétrécit, s'efface, reparaît, et tout à coup se confond avec l'ombre sans fond. Le grand valet répète son geste jusqu'au dernier chaton. Le fond de l'étang doit être jonché de petits tas d'os, chiots ou chatons, répartis année après année. Ensuite, on s'en retourne. Les grands enfants d'abord, pressés de retrouver leur jeu, la douce fillette coupe par le package un frère à chaque main. Le valet, le panier tressé au bras, reprend le chemin de l'eau. Il suit des yeux la fillette presque adolescente. Sa robe écossaise ne descend qu'aux genoux. Elle oscille au rythme régulier de sa marche. Tuer des chats, n'importe qui peut le faire. Mais lui, le valet blanc, ce qu'il lui faudrait, c'est anéantir cette féminité parfaite que le temps et la conscience ne feront que gâcher et abêtir, anéantir pour posséder dans le jaillissement de sang par la torture, le viol, l'étranglement. Cette année-là, la nuit après la noyade, la fillette ne dort pas. Rêve-t-elle ou non ? Sa mince chemise ne préserve pas ses seins naissants du reste d'hiver caché dans sa chambre. Mourir, ça doit être ça. Pour la première fois, l'adolescente entrevoit la mort. Non, la sienne, elle n'y croit pas. Mais les autres, tous les autres, l'arrière-grand-mère, le grand-père, ses parents, ses oncles, les tantes, ses frères, ses cousins et les bêtes, les arbres. La petite fille pourrait étendre le conte bien au-delà de la ferme. Car le maître et le démon nous attendent au bord de quelques pêcheries. Le sein du Seigneur vers qui tant de gens aspirent, ce sont des linceuls liquides où notre âme sera noyée. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Nous l'avons consacrée au grand romancier Jean Blanza et nous espérons que nos auditeurs auront l'envie, la curiosité de se plonger dans la lecture des œuvres de notre compatriote. Nous avons utilisé plusieurs romans de Jean Blanza, mais aussi les textes de Christine Lagarde-Escoffier, de Myriam Boucharinck, de Georges-Emmanuel Clancier, de François Blanza, de Jeanne-Marie Baude, de Pascal Léonard et de Jean Vergniaud. Pour les illustrations musicales, nous avons fait appel à Pierre Dac, à Jean-Marc Siché, à Alexandre Soupé, à Éric Thézé, à Vivaldi, et à Katika Ilieni que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.